Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers ?
Un café, s'il vous plaît.
Ça marche.
L'écologie, un problème vaste, perplexe, où chacun a sa vision des choses. Dans ma quête du mieux consommer, mieux impacter le monde de manière écologique, j'ai très souvent eu le sentiment d'être une imposture, de ne pas savoir de quoi je parlais. Un sentiment frustrant, surtout quand on essaie de faire de son mieux. Aujourd'hui, je reçois Inès du blog Les Petits Gestes, une écolo imparfaite qui va nous aider à comprendre le cheminement vers un monde plus écolo. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Inès.
Hello, salut.
Merci d'être là, merci de prendre cette pause avec moi.
Ben, merci pour l'invitation, je suis ravie.
Alors, on va commencer tranquillement. Est-ce que tu es plutôt thé ou café ?
Moi, je suis plutôt team thé, sauf vraiment en cas de besoin, ou alors si je sais que la journée va être très longue.
D'accord. Donc aujourd'hui, on part sur une pause thé, ça me va très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Inès, j'ai 28 ans, j'habite en région parisienne. Et il y a 2 ans, suite à une prise de conscience, j'ai décidé d'opérer quelques changements dans ma vie. Tout d'abord, j'ai changé de job en rejoignant le secteur caritatif. Et ensuite, j'ai décidé de créer le compte Instagram Les Petits Gestes.
D'accord. Justement, on va parler de ton évolution dans le monde écologique, pourquoi t'es arrivée à cette prise de conscience. Moi, je t'ai découverte sur Instagram et j'ai été bluffée par cette phrase qu'on trouve dans ta bio, une écolo imparfaite. Alors, à l'heure où tout le monde donne son avis sur le sujet d'écologie, où tout le monde nous dit comment faire, quoi penser, toi, tu oses dire « je suis imparfaite ». Pourquoi cette phrase dans ta bio ?
Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, justement, c'était pour mettre en avant le fait que moi, je suis ni spécialiste ni experte du sujet. Je suis vraiment une citoyenne lambda, et tous les petits gestes que je vais partager sont vraiment à la portée de tous. Et que c'est pas grave de pas tous les faire. C'est pas grave de ne pas être parfait. En fait, l'important pour moi, c'est vraiment de prendre conscience qu'il faut agir maintenant et que chacun peut faire des petits efforts à sa portée. Voilà.
Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce que tu proposes. Tu dédramatises le truc et finalement, tu nous dis « c'est accessible, si moi j'y arrive, tu peux y arriver ». Et finalement, moi, ça me rassure en quelque part parce que c'est vrai que sur les réseaux notamment, il y a tellement, entre guillemets, d'experts qui ouais. parlent de ça que des fois, on se sent illégitime.
Ah mais oui, je comprends très bien, mais c'est pour ça que moi du coup, dans ce compte-là, je voulais proposer un espace vraiment d'échange bienveillant où chacun, tu vois, peut proposer des alternatives, pas que moi, parce que moi je suis vraiment madame tout le monde en fait.
Quand as-tu eu cette prise de conscience, comment ça s'est déclenché ?
Alors, bah, ma prise de conscience, en fait, c'était suite à un voyage d'un an et demi que j'ai fait en Asie et en Australie. J'avais vraiment tout quitté pour partir faire ce voyage-là. Et j'ai vécu, en fait, au rythme des saisons. J'étais hyper proche de la nature. Et lorsque je suis rentrée en France, en fait, je me suis rendu compte que vraiment toutes les anciennes habitudes que j'avais allaient vraiment à l'encontre de la protection de cette nature-là avec laquelle j'avais vécu pendant un an. Et il fallait que je trouve un moyen pour la protéger, pour qu'en fait les générations futures qui viendraient ensuite puissent s'émerveiller autant que moi je l'ai été lors de ce voyage. C'était vraiment... je ne pouvais pas faire autrement en fait.
Mais alors, tu es en Asie, tu es à l'autre bout du monde. C'est vrai que la nature est très présente dans ces endroits-là. Quand tu arrives à Paris, comment tu fais pour justement aligner tes valeurs à ton mode de vie ? Parce qu'on est d'accord que Paris, c'est pas l'Asie.
Ah, c'est sûr. La première chose que j'ai fait, en fait, c'était de faire une liste de tout ce qui me paraissait mauvais, de tout ce que j'avais l'impression de faire mal. Et je me suis dit, voilà, pour chaque élément de cette liste, je vais essayer de trouver une alternative. Moi, j'étais une grande consommatrice de bouteilles d'eau en plastique. Voilà, le seul truc de base dans mon sac, j'avais toujours une bouteille d'eau en plastique. Et je me suis dit, mais là, c'est pas possible parce qu'en fait, lors de mon voyage en Asie, j'ai vu ces champs de plastique, mais juste gigantesques, qui viennent gâcher tout le paysage incroyable qu'il y a à voir. Et du coup, je me suis dit, rien que ça, le plastique, c'est fini. Je veux plus avoir ma part de responsabilité dans ce truc-là, quoi.
Mais est-ce que c'est simple de vraiment changer du jour au lendemain ses habitudes? Parce que moi, je vois, par exemple, si je prends mon exemple, j'ai tellement de, entre guillemets, mauvaises habitudes qui sont liées à ce que j'ai appris depuis que je suis toute petite, que des fois, c'est hyper compliqué de me conditionner, de me dire non, c'est pas bien. Et pourtant, j'en ai conscience, mais de me dire non, c'est pas bien, fais autrement. Comment toi, t'as réussi vraiment ce changement dans ta tête en te disant non, moi, je veux vraiment aller par là, donc j'y vais. C'est quoi l'astuce?
En fait, déjà, très honnêtement, moi, je pense que je suis toujours en transition. C'est vraiment, c'est un long cheminement qui se fait pas du jour au lendemain. Et au début, forcément, c'est pas facile à gérer. Donc, moi, mon conseil, c'est en fait d'y aller à son rythme, d'y aller à son échelle. Faut choisir quelque chose, un petit geste qui a du sens pour soi et commencer par là et se dire que on peut pas tout changer d'un coup. On y va progressivement et... Et en fait, quand ça a du sens pour soi et quand on se dit que ça nous plaît, enfin que l'impact de notre changement va être
important.
Ouais, voilà que ça, enfin voilà que l'impact va être important. On revient pas en arrière et en fait, on a envie de continuer dans cette marche-là. On a envie de continuer dans cette voie-là. Mais il faut y aller progressivement parce que sinon, ça peut être très démotivant en fait au début.
C'est clair. Mais c'est vrai que c'est important de faire les choses pour les bonnes raisons, parce que finalement, c'est ce qui nous motive, en fait. Je pense que quand ça devient compliqué, se remémorer pourquoi on a commencé, ce changement, et c'est là que ça prend tout son sens.
Exactement. Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au début?
Je pense que le plus dur, c'est les moments de doute, en fait. C'est lorsqu'on fait des efforts, qu'on prend vraiment sur nous, et qu'on voit des gens autour de nous qui vont polluer sans complexe, sans scrupule. Ça peut être désespérant sur le coup. Ça peut se dire, ah oui, bon, en fait, moi, je fais tout ça, et il y en a vraiment qui n'en ont rien à faire, qui continuent leur petit bout de chemin. Donc, ça peut être un peu déstabilisant, mais je pense que ça peut aussi donner une force, tu vois. Moi, ça m'a jamais donné envie d'abandonner. Au contraire, je me suis dit, eux, ils font ça. Et ben moi, je vais faire encore plus pour compenser pour eux.
Ouais. Et je pense aussi que des fois, mine de, même si ça peut être très long et très fatigant, comme tu le disais, mais des fois, je me dis que ça peut peut-être impacter une personne de nous voir faire et Exactement. Ne pas arrêter et te dire, si elle y arrive, moi aussi, je peux, comme tu le dis, avec des petits gestes, essayer de changer les choses.
Carrément, ouais, mais c'est ça.
Et comment a réagi ton entourage quand t'es revenue sur Paris et que t'as dit, c'est bon, moi je change ma manière de faire?
Alors, je te cache pas que c'était assez mitigé. Déjà, je pense qu'il y a clairement un effet de génération parce que la plupart des personnes de mon âge ont compris ce changement. Il y en a beaucoup qui m'ont soutenue. En revanche, du côté de mes parents, de mes grands-parents... qui sont plutôt de la génération le plastique à usage unique, c'est fantastique. Là, c'était hyper compliqué et j'avoue qu'ils n'ont pas été très réceptifs. Je pense que leur première réaction, c'était c'est une nouvelle mode de bobo, ça. Ou alors, avec tout le progrès qu'a fait la société, tu veux vraiment revenir en arrière?
Pour beaucoup, c'est revenir en arrière, alors que c'est pas du tout ça, au contraire.
Ah, mais clairement pas, mais bon, Enfin, le plus difficile, en fait, quand on se heurte à ce genre de discours, c'est faut être patient, faut être calme, et faut faire beaucoup de pédagogie. Et en fait, je j'ai jamais abandonné avec eux, même si je me prenais des portes, parce que je me disais peut-être que je vais réussir à planter une petite graine dans leur tête, et que cette graine de prise de conscience germera à son rythme chez eux. Et voilà, enfin c'est tout ce que je peux faire. De toute façon,
Et tu as réussi ?
Un petit peu. J'avoue que parfois maintenant, il y a des réactions qui me surprennent de la part de mes parents et ils se mettent à à dire « Ah oui, sinon, ta lessive, tu l'as fait comment déjà ?» Je ne sais pas si je suis prête à la faire, mais au moins, tu vois, ils écoutent.
C'est bien, mais c'est déjà un premier pas.
Ah ouais, clairement.
Moi, je sais que j'ai eu la même expérience quand j'ai dit à ma famille, à ma mère, que je ne mangeais plus de viande. Ouais. Alors, sur le coup, ça a été pareil. C'était comme toi, c'est quoi encore cette lubie? C'est bon, c'est à la mode, donc toi, tu t'y mets. Et finalement, alors moi, ça fait quand même très longtemps que je mange plus de viande. Et puis finalement, avec les années, elle a diminué sa consommation de viande. Et des fois, elle est toute fière de me dire, non, aujourd'hui, j'ai pas mangé de viande parce que dans la semaine, j'en avais déjà mangé. Donc voilà, j'en mange beaucoup moins ça maintenant. Et elle est toute contente de le dire.
Ah, c'est génial.
Et je pense que c'est comme ça, en fait, ne pas imposer les choses. Comme tu le disais, être pédagogue, expliquer pourquoi on le fait, les bienfaits aussi que ça nous apporte. Et des fois, on réussit à toucher les gens comme ça.
Ouais, c'est clair. De toute façon, faut pas les brusquer parce que ça peut avoir l'effet inverse si tu t'énerves contre eux, si tu leur dis mais non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, ça rentrera pas. Faut vraiment leur expliquer et attendre que ça vienne d'eux en fait.
Et comment ça s'est passé avec ton travail? Tu nous as dit que tu avais décidé de changer de travail, mais pourquoi?
Alors ça, c'est aussi une question de sens. Je pense que quand tu commences aussi à t'intéresser à l'écologie, tu te demandes qu'il faut protéger notre planète, il faut protéger du coup tout le vivant et la biodiversité qu'il y a autour. Et très vite, la question du sens, de pourquoi tu es là et quels sont l'impact de toutes tes actions, moi, c'est des questionnements que j'ai eu du coup en rentrant de ce voyage-là. Et avant, je travaillais en marketing pour une grosse boîte et j'avais plus envie de faire ça. En fait, j'avais envie que là où je passe les trois quarts de mes journées, voire plus, ait un impact positif également sur notre environnement, sur la planète. Alors du coup, je me suis tournée vers le secteur caritatif. Je travaille pas directement pour l'écologie, mais je travaille pour la cause des enfants. Je travaille à UNICEF. Et pour moi, en fait, c'est quand même un peu lié parce que les enfants, c'est la génération qui va arriver et qui va pouvoir peut-être changer quelque chose dans nos sociétés. Et on voit justement que les enfants sont très impliqués dans cette cause-là. Et,
c'est top.
Et du coup, voilà, pour moi, les enfants, c'est l'avenir et il faut également les protéger.
Est-ce que quand tu t'es dit que ton travail n'était plus en accord avec ta vision de la vie, de ce que tu voulais mettre en avant, est-ce que ça a été compliqué d'arrêter, de donner ta démission, ou est-ce que au contraire ton pourquoi était tellement puissant que ça a été ta source de motivation pour dire non, j'arrête et je suis sûre de moi?
Ah, c'est ça. En fait, c'est vraiment venu comme une évidence. Tout coulait de source. C'était ça. Je veux plus continuer là-dedans et t'as l'impression d'avoir trouvé, d'avoir trouvé ce pourquoi tu dois travailler, ce pourquoi tu dois essayer de rendre le monde un peu meilleur, quoi.
Ouais, c'est génial. Est-ce qu'une conscience écologique pour toi va de pair avec le minimalisme?
Alors, oui et non.
Explique-nous tout ça.
Lorsqu'on a une conscience écologique, on va tendre, à mon avis, implicitement vers le minimalisme parce qu'on va rejeter justement la surconsommation, l'accumulation matérielle et donc se consacrer à l'essentiel avec une consommation vraiment raisonnée. Mais à l'inverse, être minimaliste ne veut pas dire forcément avoir une conscience écologique parce que on peut être minimaliste pour une toute autre raison que réduire son empreinte carbone. On peut le faire parce que ça nous fait du bien, parce que... c'est ça, pour une question de bien-être, en fait.
Ouais. Alors, moi, je vais un petit peu caricaturer le truc, mais quand on me parle de minimalisme, j'imagine des gens célibataires vivant dans un petit appart, sans déco, sans rien, avec un jean, un t-shirt ou une robe, pas plus, une assiette, un découvert uniquement pour une personne et pas une vie super fun, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça, être minimaliste?
Tu peux si tu veux avoir juste une table et une chaise dans ton appart, mais t'es pas obligé d'en arriver là, en fait. En fait, pour moi, du coup, le minimalisme, c'est vraiment un mode de vie. qu'on choisit et où on limite ce qu'on possède au strict minimum, presque au strict minimum vital, mais c'est du coup une sobriété grâce à laquelle on se consacre à l'essentiel sans possession, sans distraction, pour vivre du coup une vie avec moins d'affaires, moins de stress, moins de déceptions peut-être, mais avec plus de temps, plus de relations significatives, plus de satisfaction. Et en fait, tu n'es pas obligé juste de te débarrasser de tout ce que tu as. Enfin, pour moi, c'est juste faire du tri, désencombrer pour avoir plus de liberté, en fait.
Est-ce que le minimalisme, pas interdit, mais entre guillemets, va dans ce sens où on va à l'essentiel et pas dans la futilité? Est-ce qu'on peut se faire plaisir en étant minimaliste?
Ah, mais bien sûr. Oui, oui, bien sûr, parce qu'encore une fois, personne n'est parfait. Et en fait, si on se retient trop à se dire « Non, il ne faut pas que j'ai ça, il ne faut pas que j'ai ça », ben finalement, je pense que tu auras envie de craquer au bout d'un moment et ce sera encore plus dur de tenir sur la longueur. Donc, pour moi, il vaut mieux un petit craquage de temps en temps, sans ouais. retour en arrière, plutôt qu'une frustration grandissante qui explosera à un moment donné et te fera abandonner.
C'est clair. J'ai lu le livre de Marie Kondo que j'ai trouvé hyper intéressant et elle explique que chaque chose que tu possèdes doit te procurer de la satisfaction. Mais comment éprouver de la satisfaction d'une assiette, par exemple? Est-ce que c'est plus dans l'utilité qu'on en a et finalement se dire que grâce à cette assiette, je peux passer un bon moment à table? Ou est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses que l'on possède quand on veut être minimaliste?
Oui, ça passe par l'utilité parce que tu vas te dire, eh ben, je sais que je l'utilise, je la vois tous les jours, je ne l'ai pas achetée pour rien. Elle remplit vraiment sa fonction première au lieu d'aller dormir dans un placard en train de prendre la poussière. Mais en fait... Ah, attends, là, j'ai perdu le fil de ma pensée.
Ça arrive.
tu peux continuer quand même à te faire plaisir en consommant moins, en choisissant des choses qui ont une plus grande valeur. Ça peut être une valeur sentimentale, ça peut être... je sais pas, moi, par exemple, quand j'ai envie de me faire plaisir et que j'ai pas envie d'acheter neuf, eh ben, je vais aller vers tout ce qui est d'occasion. Que ce soit pour une assiette, pour des vêtements, pour des meubles, etc. Là, je continue à me faire plaisir parce que je sais que déjà, je donne une deuxième vie à un objet qui aurait été sûrement jeté et que cet objet-là a aussi une histoire, qu'il est passé entre plusieurs mains. Et je sais pas, je trouve que ça donne quand même un sentiment de satisfaction aussi dans ce sens-là.
Je suis d'accord. Mais... quelles seraient tes astuces pour quelqu'un qui voudrait moins se consommer entre guillemets, plus intelligemment? Comment on fait? Par exemple, moi je te donne un exemple, je dois avoir, sans mentir, une dizaine de rouges à lèvres rouges. Alors bien sûr, je peux te donner toutes les raisons pour lesquelles j'ai 10 rouges à lèvres rouges. Alors c'est pas le même ton, c'est pas la même marque, je pourrais t'en trouver des tonnes, des excuses, mais en vrai, je me dis, mais pourquoi j'ai autant de rouges à lèvres rouges? Comment faire pour se dire, j'en ai pas besoin d'autant?
Alors, eh ben c'est drôle parce qu'il y a une astuce justement qui est... qui s'appelle la méthode bisou, qui te permet du coup avant chaque achat de te poser la question de est-ce que t'en as vraiment besoin et est-ce que cet achat en vaut la peine. Et du coup la méthode bisou, c'est B comme besoin. Avant chaque achat, tu vas te dire est-ce que t'en as besoin. Le I, ça va être comme immédiat. Est-ce que tu dois l'acheter maintenant? Genre est-ce que ça peut pas attendre un peu? D'accord. Le S comme semblable. Est-ce que tu n'as pas déjà quelque chose d'identique? Donc là, si tu vas penser à tous tes rouges à lèvres que tu as déjà chez toi, tu vas te dire peut-être que j'en ai plus un de cette teinte-là. Le O comme origine, d'où vient le produit, dans quelles conditions il a été créé. Et U comme utile, dans le sens est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce que je vais l'utiliser? Et en fait, si avant chaque achat, tu te poses du coup ces cinq questions-là, ça peut t'éviter des achats compulsifs et des trucs qui ensuite vont dormir chez toi.
C'est pas bête. Alors, je note la méthode bisous.
Et en plus, c'est facile à retenir.
Je vais tester, je te dirai si ça fonctionne sur moi. En tout cas, c'est pas bête. C'est vrai que se poser des questions avant chaque achat pour vraiment savoir si ce qu'on s'apprête à acheter est vraiment utile, si on a besoin, tout ça, c'est pas con en fait. C'est vraiment pas con. Alors, mieux agir, ça passe aussi par la maison. Des fois, on a l'impression que c'est uniquement dans les vêtements, dans la nourriture. Ça passe aussi par là, évidemment, mais aussi par la maison, dans les petits gestes qu'on peut avoir chez soi. Pour toi, quels sont les petits gestes au quotidien qui font la différence à la maison?
Alors, il y en a pas mal, mais j'en pense à un, là, tout de suite, qu'on fait tous chez soi. Enfin, du moins, j'espère, c'est le ménage. Et du coup, quand on s'attaque au ménage, je pense qu'on peut faire une pierre deux coups en faisant soi-même ses propres produits ménagers, parce que du coup, là, tu vas protéger ta santé et en même temps, tu vas moins polluer. Donc voilà, ça c'est le style de petit geste auquel je pense chez toi. Après, bien sûr, il y en a un qui va être très important, c'est ton alimentation, parce que tu es aussi chez toi pour manger. Et en favorisant, par exemple, les circuits courts, en choisissant des produits de saison, ouais, l'agriculture bio, etc., tu vas également avoir un impact énorme parce que du coup, tu... En fait, quand tu... Ouh là là, je bug. En favorisant les circuits courts, tu fais vivre les producteurs qui sont proches de chez toi.
Ouais.
Tu vas du coup également acheter tes produits moins chers parce que tu ne vas pas payer la taxe d'importation et il y aura moins de transport pour les acheminer jusqu'à chez toi. Donc, tes produits vont être moins chers. Et généralement, ça va être également des meilleurs produits parce que plus frais, parce que poussés sans pesticides, dans des bonnes conditions.
Ouais.
Encore une fois, tu fais un geste pour ta santé et pour l'écologie.
Et tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, par exemple, sur les produits ménagers. Moi, au début, quand... alors moi, je suis vraiment au début de ce changement de façon de faire. Et avant, je me disais, pour que ce soit bien, il faut absolument que j'achète tout dans un magasin bio, donc que ce soit ma lessive ou les trucs pour laver la vaisselle. Voilà. Alors que finalement, je peux aussi faire des trucs à la maison qui... certainement me reviendrait moins cher et que c'est pas parce que derrière, moi, j'ai pas un label que ce sera pas bien, en fait. Et c'est vrai que quand on essaye de bien faire, j'ai l'impression que des fois, on se met dans une case, genre, faut qu'il y ait un label, faut que ce soit bio, faut que ce soit ci, faut que ce soit ça. Et finalement, c'est hyper stressant.
Ouais, mais oui, je vois très bien ce que tu dis, mais en fait, c'est pas... Pour moi, les labels, bien sûr, ça te donne un gage quand même de sécurité et de confiance, mais le faire chez soi, c'est encore plus rassurant parce qu'en fait, tu vas très vite te rendre compte que pour faire, par exemple, tes produits ménagers, tu auras besoin qu'aller 3 à 5 ingrédients et ouais, tu vas les utiliser partout et tu vas les maîtriser et tu sais que... qu'en fait, il n'y aura que ces 5 ingrédients-là, il n'y aura pas d'autres choses néfastes, etc. Et en plus, du coup, de les faire, ce qui est hyper simple, tu auras aussi un sentiment de satisfaction parce que tu vas te dire « Ah, c'est moi qui l'ai fait !»
C'est vrai.
Moi qui suis allée dans le supermarché pour acheter ma lessive qui a été importée, qui a voyagé, qui a été faite par je ne sais pas qui, je ne sais pas où. Ouais, c'est fort, quoi.
Non, mais c'est vrai. C'est comme quand tu réussis une recette et tu te dis « J'ai réussi à faire ça, quoi. C'est cool
ouais. !»
Alors, on parlait d'alimentation. L'alimentation responsable. Alors, tu l'as dit, c'est de saison, c'est aussi les circuits courts. Est-ce que c'est facile quand on a, par exemple, quand on est dans une famille nombreuse, quand on travaille, qu'on a des horaires un petit peu compliqués? Est-ce que c'est évident, ça?
C'est une des premières idées reçues, en fait. On me pose souvent la question est-ce que, du coup, avoir un mode de vie un peu plus responsable, etc., ça prendrait pas plus de temps? Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Eh bien, pas forcément. Pour moi, c'est pas forcément vrai. C'est juste les changements, au début, vont impliquer que tu vas mettre une nouvelle organisation en place. Donc, va falloir un petit temps de réajustement. Mais En fait, au bout d'un moment, l'organisation, elle est quand même bien rodée parce que quand tu as une alimentation responsable, la liste du coup des fruits et légumes de saison, elle est beaucoup moins longue que les choix que tu peux avoir dans ton supermarché. Donc en fait, tu vas quand même passer moins de temps à choisir tous tes produits, tu vas passer moins de temps à faire les courses. Et ensuite, quand tu te mets à faire tes produits ménagers, en fait, moi, je propose du coup sur mon compte Instagram vraiment des recettes assez faciles et hyper rapides à faire. Et tu peux les faire en gros, genre tu peux faire plein de bidons de lessive en une seule fois, ça va te prendre, allez, 30 minutes. Et ensuite, tu es tranquille pendant plusieurs mois si tu veux. Et du coup, tu n'auras pas à aller acheter tes produits au supermarché. Et je pense qu'en fait, mine de rien, tout mis bout à bout, ça peut te faire aussi gagner du temps.
Il y a une chose qui revient aussi très souvent pour les gens qui sont un petit peu sceptiques sur cette démarche de mieux consommer, mieux faire, c'est de dire « ouais, mais ça coûte trop cher ». Par exemple, acheter des légumes, beaucoup de légumes, des choses comme ça ou de bonne qualité, ça coûte plus cher. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Mais pas du tout, au contraire en fait. Ce qui va coûter cher, c'est peut-être les produits bio ou bien marketés dans les supermarchés, etc. Mais encore une fois, moi, j'invite vraiment les gens à faire les choses avec leurs mains, à tester tous les petits tutos et les recettes de fait maison. Et là, tu vois, quand tu as juste 5 ingrédients que tu vas acheter, tu vas avoir ton vinaigre blanc, ton bicarbonate, ton percarbonate, etc. Tu peux les acheter en gros soit dans un magasin bio, soit dans un magasin de bricolage. Une fois que tu les as achetés une fois, ils vont quand même te durer très longtemps.
Ouais.
Et je n'ai pas calculé, mais il faudrait que je le fasse, ce serait intéressant. Le prix de revient de ma lessive, je pense que c'est quelques centimes, en fait, pour mon gros bidon. Ouais. Alors qu'au supermarché, tu peux en avoir pour 4-5 euros, quoi.
Et c'est ça. Et tu sais, la dernière fois, j'y pensais parce que au niveau de la nourriture, je regarde quand j'achète, par exemple, un steak de soja de 7 ans, ça coûte un steak déjà préparé. Alors effectivement, ça a un prix. Et j'ai essayé de faire mes hamburgers maison. Et en fait, le coût de revient est tellement minime par rapport à quand tu l'achètes déjà préparé. Alors oui, effectivement, ça va prendre un petit peu de temps, mais j'ai essayé de les faire, j'en ai fait une dizaine. Alors, comme tu disais, ça prend, allez, 30-40 minutes. Moi, je pense un petit peu plus parce que c'était la première fois. Mais derrière, j'avais une dizaine de steaks végétaux. Et ça m'a coûté, je pense que le steak était à moins de 50 centimes ou allez, ouais, mais même moins, parce que c'était avec des haricots rouges, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment pas cher, en fait. Mais on a tellement perdu l'habitude de faire les choses par soi-même que ouais. Maintenant, c'est la facilité. On a des drives partout. Tout est mis à disposition. Que quand on doit revenir à la base de faire les choses pour soi, comme tu le disais avec les mains, ça devient très, très compliqué.
Ouais, mais c'est clair. Après, je pense que là, enfin, en tout cas, j'ai bon espoir, mais peut-être que ça a un peu changé avec le confinement parce que j'ai vu, enfin, comme beaucoup de gens, j'imagine, les rayons de farine, de pâte à tarte, de levure, etc. Ouais. Dans le supermarché, ils étaient tous vides. Et du coup, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la cuisine, ils ont fait des choses par eux-mêmes, ils n'ont pas juste acheté les produits tout faits.
On espère que ça dure.
Ouais.
C'est surtout ça. Mais justement, comment toi, tu as vécu le confinement ? Comment ça s'est passé pour toi ?
Eh bien, je touche du bois, mais moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que du coup, j'ai continué à travailler. J'étais en télétravail. J'étais confinée avec mon copain. On habite en région parisienne. On a une petite maison avec un jardin, donc on a pu être dehors. J'ai fait mes petits semis pour la première fois cette année. Voilà, je n'avais pas du tout la main verte, j'ai testé ça. Et pour moi, en fait, j'ai vécu ça comme une pause, comme un moment vraiment où j'ai pu me poser, réfléchir, prendre le temps de faire les choses, de vivre les choses et quitter un peu cette frénésie de vie hyper rapide où tu vois plein de gens, où tu sors, où tu as toujours quelque chose à faire, où tu programmes tout. Là, comme on pouvait rien programmer, il fallait vivre le moment présent, en fait. Et j'ai trouvé ça quand même, même si un petit côté anxiogène et tout ça, c'était quand même une période de calme et propice à la réflexion.
Moi, je sais que dans ma quête de faire les choses différemment, j'ai aussi, depuis plusieurs mois, ce besoin de prendre le temps. Ouais. Parce que tu le dis très bien, on est dans une frénésie où tout doit aller très vite, où tout change très vite. Mais je réalise que prendre du temps pour moi, prendre du temps pour faire les choses, mais les faire pleinement, c'est-à-dire être vraiment consciente de ce que je fais et de pourquoi je les fais, ça apporte une sensation que je ne connaissais pas et je profite pleinement du moment, en fait. Et c'est une découverte pour moi, vraiment, de me dire je suis focus sur ce que je fais pendant le moment où je le fais et puis après, je passerai à autre chose et je trouve ça hyper agréable.
Ah ouais, mais carrément. Mais c'est un exercice difficile, hein. Parfois, ça peut être compliqué de juste ramener son attention à, ben, finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Est-ce que je suis vraiment là ou est-ce que je suis déjà dans l'anticipation ou en train de me rappeler des craintes du passé ? Non, il faut que je sois là.
Et je pense que, comme je le dis, hein, c'est quand on veut essayer de changer les choses, ben, il faut prendre aussi du temps pour soi, pour savoir vraiment ce que l'on fait, dans quelle direction on va. Et c'est pas évident, mais ça fait un bien fou, vraiment.
Je suis d'accord avec toi. Ouais.
Alors, on a parlé d'alimentation et tout ça. Sur ton blog, alors qui est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir le blog d'Inès, ça s'appelle Les Petits Gestes. Tu parles de produire zéro déchet. Alors moi, je t'avouerai que je n'y suis, mais carrément pas. Je trouve ça... Alors, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué. Comment on fait pour produire zéro déchet ?
Eh ben, t'as raison, c'est vraiment très compliqué. Pour moi, en fait, c'est plus un idéal à atteindre. C'est un cheminement, on pourrait dire même une aventure, l'aventure zéro déchet. Honnêtement, de mon côté, ça fait 2 ans que j'essaye, que je fais vraiment mon possible, mais tu vois, j'y suis pas encore. Je progresse, mais ça se fait pas du jour au lendemain parce que zéro déchet, enfin, il y a qu'à regarder, en fait, tout ce qu'on jette dans nos poubelles toutes les semaines, etc. C'est pas possible. Mais du coup, il y a quand même des petites choses qu'on peut mettre en place, chez soi pour améliorer les choses. C'est-à-dire, déjà, remplacer tout ce qui est jetable par du lavable. Et là, vraiment.
Ça fait une différence.
Ah ouais, ça fait une différence. Mais c'est surtout qu'il y a plein de choses auxquelles on penserait pas, mais, je pense qu'il y a un truc que tout le monde a chez soi, c'est le sopalin.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, mais le sopalin, en fait, il est hyper facilement remplaçable. Tu prends des serviettes, il existe même maintenant du sopalin lavable. C'est un truc hyper chouette que j'ai découvert aussi. Mais tu vois, en fait, tu as tout un panel de trucs jetables que tu vas avoir dans ta cuisine, dans ta salle de bain, etc. Et pour toutes ces choses-là, il existe une alternative. Mais vraiment.
Mais c'est vrai. Mais tu vois, tu viens de parler du sopalin. Je crois qu'il y a 2 jours, alors là, on n'en a pas en ce moment à la maison. Et il y a 2 jours, j'étais faire les courses, je suis revenue, je me suis dit, mince, j'ai pas acheté du sopalin. Alors que pourtant, je suis dans cette démarche de, ben non, consomme différemment. Mais pour moi, c'est vrai, tu sais, c'est les petits réflexes qu'on a et qu'on prend pas le temps d'analyser, en fait. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il doit y avoir tellement de choses dans la cuisine, dans la salle de bain, que je pourrais faire différemment, que je pourrais acheter différemment. Mais j'y ai pensé, je me suis dit, mince, j'ai fait les courses, j'ai pas acheté de sopalin.
Et ouais. C'est un réflexe qu'on peut avoir au début, et puis tu vas voir que petit à petit, ça s'efface. Par exemple, je pense, ouais, le sopalin, tu peux le remplacer. En fait, ça dépend si tu l'utilises pour t'essuyer la bouche quand tu es en train de manger. Ben là, tu peux utiliser des serviettes comme pesaient nos grands-parents ou des choses comme ça. Si tu l'utilises lorsque tu as fait tomber, ton café et que tu as envie de nettoyer, ben en fait, t'as l'éponge qui est quand même sa fonction que tu peux utiliser pour ça, ou alors également des torchons ou des serviettes et laver. Et après, tu vas avoir ça pour tout. Tu vas avoir dans ta salle de bain les cotons. T'as des cotons lavables maintenant qui se font avec des matières hyper agréables. Enfin, j'ai même un tuto, si tu veux, pour fabriquer ta propre éponge.
Ah, c'est génial. Elle est sur ton blog ?
Ouais, elle est dessus, tu peux trouver. Il te suffit juste d'avoir soit une vieille paire de collants, une paire de chaussettes ou un t-shirt que tu mets plus. Il suffit de le découper et là, tu as un super tuto pour te faire ton éponge lavable.
Oh, c'est trop bien. Je vais aller regarder ça. Tu me donnes des idées, mais c'est trop bien. Mais c'est vrai que là, j'ai changé. J'étais une adepte du coton. J'en achetais tout le temps. Et là, je me suis enfin décidée à passer aux lingettes lavables. Donc, pour ne pas citer la marque, j'ai acheté les lingettes de Mademoiselle, des astuces d'Emma, ouais. Faites en bambou, en fibre de bambou. Et c'est hyper agréable, quoi. Et je suis trop contente de mon achat.
Ah bah ouais, mais franchement, en plus, c'est doux, je trouve que c'est hyper agréable, ouais.
Et ça nettoie hyper bien le visage. Depuis, je l'ai reçu cette semaine et je l'ai utilisé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas connu ça plus tôt?
Et oui, c'est clair.
Mais oui, parce qu'en plus, des fois, les alternatives sont tellement meilleures que ce qu'on a l'habitude d'acheter. Par exemple, moi, quand je suis passée aux produits naturels pour le corps, j'ai découvert les bienfaits des huiles végétales, mais ouais. Ça a changé ma vie, vraiment.
Ah ouais. Moi aussi, et pourtant, au début, j'étais quand même hyper surprise. Je me disais, mais à quel moment je vais me mettre une huile sur le visage et je vais pas ressembler à une friteuse, en fait.
C'est ça.
Et en fait, tu testes et c'est juste incroyable. Tu te démaquilles avec, tu t'hydrates ta peau. Non, c'est vraiment top.
En fait, je pense qu'il faut être curieux. Faut pas avoir peur aussi de tester les choses. Parce que des fois, c'est de l'appréhension. Comme tu dis, l'huile, on se dit, mais non, mais je vais pas mettre de l'huile sur mon visage parce que je vais ressembler à rien. Et non, en fait, faut apprendre. Faut pas avoir peur d'ouvrir les livres, d'aller sur Internet, regarder. Et puis, il y a tellement, comme tu le dis, il y a tellement de tutos aujourd'hui qu'on peut trouver facilement des choses. Comment faire sa crème, comment faire sa lessive. Il y a vraiment beaucoup de choses sur Internet gratuites. En plus, donc c'est vrai qu'en quelque part, on n'a quand même pas d'excuse de ne pas essayer.
C'est ça, ouais, t'as vraiment tout bien résumé là.
Alors, moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, on pouvait polluer de manière avec le digital. Alors, je ne savais pas du tout que ça existait et on peut polluer avec le digital. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que c'est et surtout comment y remédier?
Ouais, mais oui, c'est assez impressionnant parce que je trouve qu'on en parle très peu d'ailleurs. C'est vraiment un sujet... pas tabou, mais qui est assez fermé en tout cas.
Ouais.
Et si le digital, en fait, c'est ça qui est assez fou, si le digital était un pays, ce serait le 7e pays le plus polluant du monde.
C'est dingue.
Franchement, c'est dingue. Et personne ne nous en parle, ça. Alors que maintenant, tout le monde a des smartphones,
C'est pour ça que je ne comprends pas. Et je t'ai dit, moi, j'ai dû l'apprendre l'année dernière. Ah ouais, il y a un petit peu plus d'un an. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas.
Ouais, mais c'est clair. Et en fait, rien que les emails, parce que tout le monde envoie des emails pour travailler ou même dans sa vie perso, les emails polluent. Par exemple, si tu envoies 30 emails dans ta journée, c'est l'équivalent d'une ampoule qui est allumée toute une journée. Voilà.
Wow.
Donc, imagine déjà toutes les personnes sur Terre qui envoient des emails. Imagine si en plus tu mets des personnes en copie dans tes emails. Et imagine si en plus des personnes en copie de tes emails, tu mets une pièce jointe. Bah alors là.
Là, c'est bon, t'as la totale.
Ouais. Non, mais enfin, ouais, je trouve ça quand même assez dingue parce que, tu vois, bon, là, c'est les emails, mais t'as aussi les ordinateurs. J'avais lu une étude du WWF qui prévenait que, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, une journée de travail sur ton ordinateur, ça correspond à 9 km que tu fais en voiture.
Waouh!
Donc en fait, c'est juste affolant parce que tu multiplies ça par les gens, toutes les personnes qui travaillent sur un ordinateur.
C'est ça, en fait.
Surtout en cette période post-confinement avec le télétravail, etc.
Ouais.
C'est fou, quoi.
C'est dingue. Mais comment on peut remédier à ça? En tout cas, comment on peut limiter son impact à ce niveau-là?
Alors, déjà, comme je disais juste avant, si tu envoies un email, évite de mettre des pièces jointes dedans. Plus elles sont grosses, plus ça va être lourd et plus ça va polluer. Donc, on peut avoir des petites astuces, mais on les connaît déjà toutes. Hein. C'est une clé USB. C'est utiliser le cloud, par exemple, pour envoyer des gros dossiers. Après, tu peux bien évidemment te désabonner de toutes les newsletters que tu ne lis jamais, de tous les emails que tu as déjà.
Je fais jamais ça.
Ouais, voilà. Mais c'est hyper important parce qu'en fait, tous ces emails-là, ils vont rester stockés sur des serveurs à l'autre bout de la planète et ces serveurs sont juste hyper énergivores. Donc en fait, même si tu les vois pas, même si tu les lis pas ou lis plus, ils continuent à dépenser de l'énergie.
D'accord, donc faut les supprimer.
Voilà, il faut les supprimer, ouais.
Bon, ben je vais m'y mettre dès que nous avons terminé le podcast. Tu sais, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et on se dit, mais finalement, ça me prend 30 secondes de faire ça et j'aurais quand même un petit peu limité mon impact, donc c'est pas rien.
Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est des tout petits gestes. Pour le coup, c'est vraiment tout petit à la portée de tout le monde, mais ça peut faire la différence si tout le monde s'y met, en fait, c'est ça le truc. Et puis même si tu veux acheter des appareils électroniques, eh ben, pourquoi pas se poser la question de se tourner vers du reconditionné. Il y a plein de sites et de gens qui proposent des appareils reconditionnés de super qualité maintenant. Et du coup, rien que de ne pas l'acheter neuf, ça, c'est énorme.
Et même de grosses marques, Apple propose des produits reconditionnés aussi.
Ah bah oui, carrément, ouais.
Ouais, donc faut pas s'en priver parce que ça existe. Si on ne devait retenir qu'une chose pour toi, quelque chose d'essentiel, un message que tu voudrais transmettre ou je sais pas, un truc vraiment important que les gens devraient retenir, ce serait quoi selon toi?
Alors, s'il y a un message que j'aimerais vraiment transmettre, je pense que c'est un message que moi j'ai lu au tout début quand j'ai eu ma prise de conscience et que du coup j'aimerais raconter, c'est la légende du colibri de Pierre Rabhi, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une légende qui raconte qu'un jour, dans la forêt, il y a eu un immense incendie. Tous les animaux étaient terrifiés, tous les animaux avaient peur et regardaient le désastre impuissant. Et là, il y a un petit colibri qui commençait à s'activer, qui allait chercher quelques petites gouttes d'eau dans son bec et qui commençait à les jeter sur le feu. Et au bout d'un moment, il y a un animal agacé par ce que faisait le colibri qui lui dit « Mais t'es fou !» Mais c'est pas avec ces petites gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et là, le colibri se tourne vers l'animal et lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Et en fait, pour moi, ce message est juste super fort parce que j'aimerais faire passer le message aux gens pour leur dire qu'en fait, on est tous des colibris et que même si individuellement, nos choix sont peut-être... n'ont pas beaucoup d'impact, en fait, la somme de toutes les actions individuelles qu'on va faire sera énorme. Et qu'ensemble, on peut vraiment changer beaucoup de choses.
C'est génial. Moi, j'adore vraiment cette histoire. Je ne la connaissais pas du tout, mais elle est tellement remplie de sens.
Ouais.
Vraiment, merci de me faire découvrir ça parce que je ne la connaissais pas du tout. Donc, merci.
Allô ? Allô, je t'entends plus. Allô, Tia, tu es toujours là?
Alors.
Allô?
Oui, tu m'entends?
Ah oui, là, oui, je t'entends.
Ça a coupé. Ouais, ça a coupé, je ne t'entendais plus. Non, je disais vraiment merci pour cette histoire parce que je ne la connaissais pas du tout et elle est remplie de sens, quoi. Donc vraiment merci.
Bah écoute, avec plaisir.
En tout cas, on termine ce podcast sur vraiment cette philosophie qui est importante de retenir. Merci Inès de m'avoir accordé cette pause. J'ai appris plein de choses, vraiment. N'hésitez pas à aller voir le blog d'Inès, Les Petits Gestes, parce que finalement, ce sont des astuces vraiment accessibles à tout et chacun. Et n'ayez pas peur d'essayer. Et comme tu le dis, c'est des petites choses que chacun fera, qui feront la différence, quoi.
Exactement, c'est ça. Il n'y a pas de petits gestes quand on est 7 milliards à les faire, en fait.
Exactement. En tout cas, je te remercie, Inès. Je te dis à très bientôt.
À très vite. Merci à toi.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur deux sur iTunes et Spotify.